Les yeux grands ouverts dans son lit, la haute dame sourote, sa belle Meldarat, contemplait le plafond. Par une nuit sans lune, les fenêtres à triple arche qui donnaient sur un des jardins du palais étaient des puits d'obscurité. Sa vision s'y étant accoutumée, Sourotte parvenait pourtant à distinguer les contours des moulures peintes. Alors que l'aube approchait, peut-être dans une heure, deux au maximum, la haute dame n'avait pas encore fermé l'œil. Depuis la disparition de Tuon, c'était ainsi chaque nuit, jusqu'à ce que l'épuisement la contraigne à baisser les paupières. Dormir lui valait des cauchemars qu'elle aurait donné cher pour oublier. À Iboudar, il ne faisait jamais vraiment froid. La nuit, cependant, un semblant de fraîcheur aidait la Séan Chanienne à veiller, un drap de soie sur le corps. La question qui pourrissait ses rêves était aussi simple que percutante. Tuon était-elle vivante ou morte? L'évasion des Daman à Ta'an-Niré et l'assassinat de la reine Tailin militaient en faveur de la seconde possibilité. Que trois événements si importants, des évasions, un meurtre et une disparition, se produisent par hasard la même nuit, était quasiment impensable. La gravité des deux premiers n'augurait rien de bon pour Tuon. À l'évidence, quelqu'un tentait de semer la terreur parmi les Séan Chaniens qui revenaient chez eux. Le but était-il de saboter le retour? Dans ce cas, éliminer Tuon était un coup de maître. Pour ne rien arranger, le coup devait venir de l'intérieur. Tuon étant arrivé voilé sur ce continent, aucun indigène ne pouvait savoir qui elle était. Et Tailin avait sûrement été tuée avec le pouvoir de l'unique, l'œuvre d'une Souldame et de sa Daman. Par commodité, Sourotte avait souscrit à la thèse selon laquelle des Aes Sedai avaient fait le coup. Mais tôt ou tard, quelqu'un d'important demanderait comment ces femmes, dans une ville grouillante de Daman, avaient pu s'introduire dans un palais tout aussi peuplé de femmes enchaînées, sans que nul ne s'en aperçoive. Pour libérer les Daman du peuple de la mer, il avait fallu qu'une Souldame au moins soit complice. Or, deux Souldames de Sourotte s'étaient volatilisées la même nuit. Plus précisément, on avait remarqué leur absence deux jours plus tard, mais personne ne les avait vus depuis la disparition de Tuon. La haute dame doutait de leur implication, même si elles avaient séjourné dans les chenilles. Que Rena ou Seta puisse retirer son collier à une Daman semblait impossible. En revanche, elles avaient toutes les raisons de filer et de chercher un emploi très loin des Boudards, auprès d'une personne ignorant leur répugnance secret. Quelqu'un comme Egeanin Tamarat, déjà coupable du vol d'un duo de Daman. Une étrange façon de se comporter quand on venait tout juste d'être admise au sein du sang. Étrange peut-être, mais secondaire. Car Sourotte ne voyait aucun lien entre ce forfait et le reste. Selon toute probabilité, pour une simple femme marin, la complexité et les responsabilités de la noblesse s'étaient révélées trop écrasantes. Tôt ou tard, cette canaille serait découverte et mise sous les verrous. Ce qui importait, risquant de devenir une affaire de vie ou de mort, c'était le départ de Rena et de Seta, à un moment que nul n'était en mesure de préciser. Si la mauvaise personne remarquait que leur fuite coïncidait avec les trois drames et en tirait des conclusions hâtives, Sourotte plaqua la paume de ses mains sur ses yeux et expira lentement, avec une sorte de gémissement. Si Tuon était morte et qu'elle parvienne à ne pas être accusée de sa fin, Sourotte devrait quand même s'excuser devant l'impératrice, puisse-t-elle vivre éternellement. Pour la mort de l'héritière du trône de cristal, il faudrait s'excuser très longuement, sans lésiner sur l'humiliation ni reculer devant la souffrance. Et malgré tout, l'affaire pouvait se solder par une exécution, ou, pire encore, une longue vie de servitude et de tourment. Même si cette possibilité hantait ses nuits, Sourotte savait qu'elle n'en arriverait jamais là. Glissant une main sous son oreiller, elle s'assura de la présence de son poignard sans fourreau. À peine plus longue que sa main, la lame était assez tranchante pour lui ouvrir les veines, de préférence dans un bain chaud. Au cas où elle devrait s'excuser, Sourotte était résolue à ne pas arriver vivante à Séandar. Si assez de gens tenaient son suicide pour une forme de réhabilitation, son nom serait peut-être moins souillé que prévu. Pour qu'il en aille ainsi, elle avait prévu de laisser une lettre d'explication. Mais il restait une chance que la fille des Neuf Lunes soit vivante, et il fallait s'y accrocher. La tuer et se débarrasser de son corps pouvait être une machination ourdie depuis le Séan Chan, l'œuvre d'une des sœurs encore en vie de Tuon, par exemple. Toutes ces filles convoitaient le trône et n'étaient pas étouffées par la morale. Cela dit, Tuan avait plus d'une fois mis en scène sa propre disparition, et rien n'interdisait de penser que c'était encore le cas. Pour étayer cette thèse, il suffisait de se souvenir que la Der Suldam de Tuon, 9 jours plus tôt, avait conduit toutes ses Suldam et ses Daman hors du palais, prétendument pour les entraîner. Depuis, on ne les avait pas revus. De plus, 9 jours pour entraîner des Daman, c'était incroyablement long. Et le jour même, non, la veille, et ce depuis des heures déjà, Surot avait appris que le capitaine des gardes du corps de Tuon avait lui aussi quitté la ville, en même temps que les femmes et avec le gros de ses hommes. Ce groupe aussi ne s'était plus remontré. Une avalanche de coïncidences qui finissait par former un réseau de preuves. Un réseau fragile, hélas. Les précédentes disparitions de Tuon, cela dit, avaient toujours fait partie de sa stratégie pour se gagner l'estime de l'impératrice, puisse-t-elle vivre éternellement, et l'inciter à la nommer héritière. À chaque occasion, une de ses sœurs s'était laissée aller à commettre quelques bassesses qui se retournaient contre elle quand Tuon réapparaissait. Ici, à quoi aurait rimé une telle manœuvre? Et qui aurait-elle visé hors de l'Empire? Même en se creusant la cervelle, Surot ne parvenait pas à trouver une cible plausible. Elle-même? Elle y avait pensé, mais ça ne tenait pas la route. Pour la priver de son rôle dans le retour, Tuon n'aurait eu que 3 mots à dire. Son voile retiré, nul n'aurait pu lui faire obstacle. La fille des 9 lunes, fer de lance du retour, aurait été la voix officielle de l'Empire. Le simple soupçon que Surot pût être une Ataan Shadar, ce qu'on appelait ici un suppôt des ténèbres, aurait suffi pour qu'elle finisse entre les mains des limiers, les plus fins enquêteurs de l'Empire. Décidément, la mascarade de Tuon visait quelqu'un ou quelque chose d'autre. Si elle ne pourrissait pas déjà sous terre, il fallait qu'elle soit encore en vie. Même si elle refusait l'idée de mourir, Surot éprouva du pouce le double tranchant de son poignard. La cible du coup monté importait peu. L'essentiel était de savoir où Tuon se cachait. Ça, c'était même vital. Bien qu'on eût annoncé la formation d'une vaste équipe de recherche terrestre et maritime, les membres du sang murmuraient que l'héritière avait bel et bien rendu l'âme. Plus l'absence de Tuon durerait, plus ces rumeurs prendraient de la vigueur, forçant tôt ou tard Surot à regagner Seandar pour implorer la clémence de son impératrice. Traîner les pieds serait possible, mais jusqu'à un certain point seulement. Au-delà, tenu pour Seymosief, la haute dame ne pourrait plus compter que sur ses serviteurs et ses esclaves. Et encore, ses yeux ne fixant plus que le sol, elle devrait supporter le mépris du haut sang, de l'inférieur, et peut-être même des gens ordinaires. Un jour ou l'autre, qu'elle le veuille ou non, elle se retrouverait sur un bateau en partance pour le Seanchan. Sans nul doute, si son stratagème était déjoué, Tuon en concevrait un profond déplaisir. Pas suffisant cependant pour qu'elle condamne Surot à abdiquer son honneur et à s'ouvrir les veines. En conséquence, il fallait retrouver la fille des 9 lunes. Tous les limiers présents en Altara étaient sur sa piste, ceux que Surot connaissait en tout cas. Ceux de Tuon, tous anonymes, ne devaient pas être en reste, bien au contraire, sauf si elle les avait mis dans la confidence. En 17 jours, malgré cette mobilisation, tout ce qu'on avait découvert, c'était une histoire ridicule. Tuon extorquant des bijoux à des joailliers. De quoi éclater de rire, vraiment. Cela dit, le dernier des soldats était au courant. Alors peut-être que... La porte surmontée d'une arche de l'antichambre commençant à s'ouvrir, Surot se couvrit les yeux pour que la lumière filtrant de la pièce ne perturbe pas sa vision nocturne. Dès que le battant fut assez entrebâillé, une femme aux cheveux clairs, vêtue de la tunique transparente d'une dac ovalée, se glissa dans la chambre. Une fois entrée, l'intruse referma la porte, plongeant de nouveau la pièce dans l'obscurité. Rouvrant les yeux, Surot parvint à distinguer la silhouette qui approchait de son lit. Dans un coin de la chambre, une autre ombre bougea. Alarmée, Almand Dargal, le fidèle lopard de Surot, venait de se redresser d'un bond. En un éclair, il aurait pu traverser la pièce et briser la nuque de l'inconnu, ce qui n'empêcha pas Surot de saisir son poignard. Même quand la première ligne de défense semblait inexpugnable, en prévoir une seconde ne faisait pas de mal. À un pas du lit, la dac ovalée s'immobilisa, le souffle court à force d'anxiété.
« Tu essaies de prendre ton courage à deux mains, Liandrin ?»
railla Surot. Les cheveux blonds pâles tressés de l'ancienne Aes Sedai suffisaient à l'identifier. Avec un petit cri, celle qui n'était plus qu'une dague ovalée tomba à genoux et pressa le visage contre le tapis. Une leçon qu'elle avait retenue, au moins.
« Haute dame, je n'avais pas l'intention de vous faire du mal !»
mentit Liandrine.
« Vous savez bien que j'en serais incapable !»
Paniquée, la misérable débitait son discours à toute allure. Savoir quand parler et se taire semblait tout aussi hors de sa portée qu'adopter en toutes circonstances un ton respectueux.
« Haute dame, nous sommes toutes les deux au service du grand seigneur. N'ai-je pas maintes fois prouvé mon utilité? Pour vous, n'ai-je pas éliminé Halloween? Vous désiriez sa mort, et j'ai fait ce qu'il fallait. »
Sourotte fit la grimace, puis s'assit dans son lit, le drap glissant sur ses genoux. Oublier la présence d'une dague ovalée était si facile. Du coup, on révélait des choses qu'on aurait dû garder secrètes. Halloween, la compétente voix de Sourotte, n'avait jamais été dangereuse, au maximum une nuisance. Ayant atteint une position au-delà de toutes ses espérances, elle n'aurait trahi sa maîtresse sous aucun prétexte, sauf une récompense quasiment inimaginable. Si elle s'était cassé le cou dans un escalier, la haute dame en aurait conçu quelque satisfaction, comme quand une allergie cesse de démanger. Mais le poison qui l'avait laissée toute violacée, les yeux exorbités, voilà qui était une autre affaire. Malgré la recherche effrénée de Tuon, l'incident avait attiré l'attention des limiers sur la maison de Sourotte. Sa voix ayant été assassinée, elle avait même dû faire mine d'exiger une enquête. Qu'il y ait des espions dans son entourage ne la dérangeait pas trop. De toute façon, c'était le lot de toutes les maisons. Mais les limiers, eux, ne se contentaient pas des pieds. Fourrant leur nez partout, ils risquaient de découvrir ce qui devait rester secret. Cacher sa colère étant moins facile que prévu, la haute dame parla d'un ton plus glacial qu'elle l'aurait voulu.
« J'espère que tu ne m'as pas réveillée pour plaider à nouveau ta cause, Liandrine. »
« Non, non !»
L'idiote leva les yeux et osa regarder Sourotte.
« Un émissaire du général Galgan est arrivé, haute dame. Cet officier entend vous conduire à son chef. »
Sourotte en tressaillit d'irritation. En plus d'oser croiser son regard, cette vermine avait tardé à lui transmettre un message de Galgan. Dans le noir, la première offense était vénielle, certes, mais Sourotte aurait volontiers étranglé de ses mains l'impudente. Sauf que... une deuxième mort suspecte, peu après la première, aurait eu sur les limiers l'effet d'un chiffon rouge sur un taureau. Certes. Mais Elbar aurait pu faire disparaître le cadavre. Pour ces choses-là, c'était un génie. Là encore, sauf que... Sourotte s'amusait beaucoup du pouvoir qu'elle exerçait sur une ancienne sœur rouge qu'il avait regardée de si haut par le passé. En faire une dague ovalée modèle selon tous les critères en vigueur serait très plaisant. Cela dit, il était temps de lui mettre un collier. Parmi les serviteurs, une rumeur se faisait de plus en plus insistante. En leur sein, prétendait-il, il y aurait eu une marate d'Aman en liberté. Quand la Souldame qui prendrait Liandrine en charge verrait qu'elle était incapable de canaliser le pouvoir à cause d'un bouclier, on en ferait des gorges chaudes, inutile de rêver. Au moins, ça expliquerait pourquoi l'impudente blonde ne portait pas de collier. Cela dit, Elbar devrait dénicher une Ataan Shadar parmi les Souldames. Ce ne serait pas un jeu d'enfant, parce que ces femmes se tournaient rarement vers le grand seigneur. Mais pour superviser Liandrine, il faudrait quelqu'un de confiance.
« Allume deux lampes !»
ordonna Sourotte en sortant du lit.
« Puis apporte-moi une robe de chambre et des pantoufles. »
Liandrine rampa quasiment jusqu'à la table et chercha à tâtons la coupe de sable qui reposait sur un trépied doré. Se brûlant quand elle la trouva, elle grogna d'agacement, mais fut prompte à saisir les pinces et à s'emparer d'une braise sur laquelle elle souffla. Après avoir allumé avec les lampes d'argent, elle régla la longueur des mèches pour que les flammes soient stables et qu'il n'y ait pas de fumée. Son insolence verbale aurait pu faire croire qu'elle se croyait l'égale de Sourotte et non sa chose. Mais le fouet lui avait appris à exécuter les ordres sans traîner. Quand elle se retourna, une lampe à la main, découvrir Alman Dagaral, toujours debout dans son coin, lui arracha un petit cri, d'autant plus que l'animal ne la quittait pas des yeux. À croire qu'elle n'avait jamais vu le compagnon de Sourotte. Cela dit, il était impressionnant, avec ses 10 pieds de haut, ses 2000 livres et sa peau semblable à du vieux cuir. Comme pour taquiner l'idiote, il fléchit les pattes avant, histoire de faire saillir ses griffes.
« Toudou !»
lança Sourotte au lopard. Toujours mutin, le monstre ouvrit la gueule, dévoilant ses crocs, avant de se laisser retomber sur le sol, la tête sur les pattes avant, comme un gentil toutou. Toutou ou pas, il ne referma pas les yeux. Malgré leur apparence, les lopards étaient très intelligents. et celui-là se méfiait de Liandrine au moins autant que Sourotte. Sans cesser de jeter des coups d'œil furtifs au monstre, la Dacovalet trouva assez rapidement dans la grande armoire une paire de pantoufles en velours bleu et une robe de chambre en soie blanche bordée de fils verts, rouges et bleus. Elle présenta le vêtement à Sourotte pour qu'elle l'enfile, mais la haute dame dut nouer la longue ceinture elle-même. Dans le même ordre d'idées, il lui fallut tendre ostensiblement un pied pour que Liandrine daigne s'agenouiller et lui mettre les pantoufles. Quelle crétine bonne à rien, décidément. À la chiche lumière des lampes, Sourotte s'inspecta dans son grand miroir en pied. De fatigue, elle avait les yeux cernés et la queue de sa crête de cheveux pendait lamentablement dans son dos. Un relâchement acceptable la nuit. À l'évidence, son crâne aurait eu besoin d'un coup de rasoir. Parfait. Ainsi, l'émissaire de Galgan penserait qu'elle mourait d'inquiétude pour Tuon. La vérité, à un ou deux détails près. Avant d'écouter le message du général, Sourotte devait encore s'acquitter d'une formalité.
« Va voir Rosala et implore-la de te rouer de coups !»
ordonna-t-elle à Liandrine. La bouche trop fine de la Dacovalet s'arrondit de surprise et ses yeux devinrent ronds comme des billes.
« Pourquoi ?»
gémit-elle.
« Je n'ai rien fait de mal !»
Pour ne pas se charger elle-même de la correction, Sourotte s'occupa les mains en resserrant le nœud de sa ceinture. Si on apprenait qu'elle avait frappé une Dacovalet, elle devrait garder les yeux baissés pendant un bon mois. Bien entendu, une haute dame ne devait aucune explication à son esclave. Mais quand Liandrine serait parfaitement formée, sa maîtresse regretterait de ne plus pouvoir l'humilier en lui mettant le nez dans ses déjections. Alors, autant en profiter avant qu'il ne soit trop tard.
« Toi, n'avoir rien fait ? Pour commencer, tu as tourné autour du pot au sujet de l'émissaire. Et tu continues à multiplier les « je » au lieu de parler de toi en disant « Liandrine » comme il sied à une vermine. Surtout, tu as osé me regarder dans les yeux. »
Une tirade que Sourotte avait sifflée à la manière d'une vipère. Se recroquevillant sur elle-même à chaque mot, Liandrine se décida à baisser les yeux, comme si ça pouvait compenser son arrogance passée.
« Au lieu d'obéir, »
continua Sourotte,
« tu as discuté mes ordres. Mais tout ça n'est rien. Tu seras battu parce que j'ai envie que tu le sois. À présent, file et répète toutes ces raisons à Rosala, histoire qu'elle mette du cœur à l'ouvrage. »«
Liandrine a entendu et t'obéira, haute dame !»
s'écria la Dacovalet. Enfin un comportement adéquat. Fonçant vers la porte, Liandrine faillit s'en mêler les pinceaux et perdit une de ses savates blanches. Trop terrifiée pour se retourner, voire pour s'apercevoir de ce qui lui arrivait, elle ouvrit la porte et détala. En principe, envoyer une esclave se faire châtier n'aurait pas dû être une source de jubilation. En principe, oui. Sourotte prit le temps de se calmer. Paraître abattue et inquiète, d'accord, mais avoir l'air excitée comme une puce. Hélas, Liandrine l'avait mise hors d'elle. Le souvenir de ses cauchemars la hantait et elle s'inquiétait du sort de Tuon, moins que du sien cependant. Lorsque son reflet parut enfin d'un calme de statue, elle franchit à son tour la porte de sa chambre. L'antichambre était décorée avec le manque de goût typique des boudoirs. Plafond peint en bleu avec de gros nuages blancs, murs jaunes et carrelages verts et jaunes. Même en remplaçant les meubles par de somptueux paravents, presque tous décorés d'oiseaux ou de fleurs par les meilleurs artistes, un décor criard restait un décor criard. En découvrant la porte du couloir laissée ouverte par Liandrine, Sourotte sentit la moutarde lui monter au nez, mais elle se ressaisit et chassa la Dacovalet de ses pensées, provisoirement en tout cas. Maîtresse d'elle-même, elle se concentra sur l'homme qui étudiait le paravent orné d'un félin tacheté de Senchore. En armure rayée de bleu et de jaune, l'officier mince et grisonnant se retourna et mit un genou à terre, bien qu'il n'appartînt pas au sang. Le casque qu'il serrait sous son bras arborant trois fines plumes bleues, le message devait être important. Mais ça tombait sous le sens. Sinon, Galgan n'aurait pas dérangé Sourotte à une heure pareille. Du coup, pour cette fois, elle ne lui en tiendrait pas rigueur.
« Général de bannière Mikael Nadjira, haute dame. Le capitaine général Galgan vous présente ses hommages et vous informe qu'il a reçu des nouvelles du Tarabon. »
Involontairement, Sourotte fronça les sourcils. Le Tarabon ? Ce pays était aussi sûr que Séandar. D'instinct, les doigts de la haute dame composèrent des mots, mais elle n'avait pas encore trouvé de remplaçante à Halloween. Du coup, elle allait devoir parler à cet homme. Cette idée l'agaça, et elle ne fit rien pour le cacher. En plus, ce rustre s'était agenouillé, au lieu de se prosterner.
Quelle nouvelle! Si on m'a réveillé pour des histoires d'Aïel, je n'apprécierais pas, général de Bagnères.
La tirade n'impressionna pas le mufle, qui osa même lever les yeux sur Surotte.
Il n'est pas question d'Aïel, haute dame. Le capitaine général veut vous en parler lui-même, pour qu'aucun détail ne vous échappe.
Surotte en rata une inspiration. Que Nadjira n'ait pas envie d'être le porteur de mauvaises nouvelles ou qu'on lui ait ordonné d'agir ainsi, ça ne sentait pas bon.
« Je te suis, général de Bagnères. »
Sur ces mots, Surotte sortit dans le couloir sans attendre l'officier et fit de son mieux pour ignorer les deux gardes de la mort immobiles comme des statues. L'honneur d'être protégé par ces hommes en armure rouge et vert lui valait des frissons glacés. Depuis la disparition de Tuon, elle s'efforçait de faire comme s'il n'existait pas. Éclairé par des lampes à déflecteurs dorés, le couloir orné de tapisseries à motifs marins était désert, si on exceptait les quelques serviteurs déjà à l'ouvrage. Pensant qu'une simple révérence suffisait, ces gueux et ces gueuses se permettaient en outre de poser les yeux sur Surotte. Devait-elle en toucher un mot à Beslan? Non. En termes juridiques, le nouveau roi d'Altara était son égal, et il ne consentirait pas à imposer la discipline à ses serviteurs. Pour ne plus voir les insultes répétées de la vermine, Surotte garda les yeux rivés devant elle. Nadjira la rattrapa et marcha à ses côtés. En réalité, elle n'avait pas besoin d'un guide. Galgan, elle devinait où il l'attendait. La salle était à l'origine réservée au bal. Carrée et très vaste, elle arborait un plafond peint et décoré d'oiseaux et de poissons, évoluant dans ce qui semblait être un mélange de nuages et de vagues. Ce monument de laideur était le seul vestige de la vocation première des lieux. Aujourd'hui, éclairé par des lampes à pied, des rayonnages lestés de dossiers occultaient les murs rouge clair. En redingote marron, des fonctionnaires allaient et venaient le long de la grande table couverte de cartes. Aucune plume dormant son casque rouge et jaune, un jeune sous-lieutenant frôla Surotte, sans manifester la moindre intention de se prosterner. Distrait, les fonctionnaires daignaient à peine s'écarter pour la laisser passer. Sous la férule de Galgan, la discipline se relâchait. Histoire de gagner du temps lors des crises, selon le capitaine général. Pour Surotte, il s'agissait surtout de goujaterie. Sa tunique rouge brodée d'oiseaux aux ailes étincelantes, Lunal Galgan arborait une crête de cheveux blancs dont la queue, tressée mais pourtant en bataille, tombait sur ses épaules. Debout devant la table, il était entouré d'autres officiers de haut rang, certains en plastron, d'autres en tunique et tout aussi échevelés que lui. Visiblement, Surotte n'était pas la première à avoir reçu une convocation. Encore une offense. Décidément, garder son calme tenait de l'exploit. Galgan était arrivé avec Tuon. Pour Surotte, c'était un quasi-inconnu. Mais elle savait quand même que ses ancêtres avaient compté parmi les premiers à soutenir Luther Pandrag et qu'il jouissait d'une solide réputation de guerrier et de commandant. Parfois, la réputation et la vérité se recoupaient. Quoi qu'il en soit, Surotte abominait ce rustre. Pour l'accueillir, il lui posa les mains sur les épaules, selon le protocole, puis l'embrassa sur les joues. Forcé de lui retourner l'embrassade, la haute dame s'efforça de ne pas plisser le nez quand elle capta de forts effluves masculins. Les traits aussi détendus que le lui permettaient ses rides, Galgan avait néanmoins une ombre d'inquiétude dans le regard. Parmi les hommes et les femmes qui l'entouraient, pour l'essentiel des membres du sang inférieur ou de la plèbe, beaucoup avaient le front plissé. La carte du Tarabone déroulée sur la table et tenue aux quatre coins par des lampes expliquait la tension ambiante. Dessus, des flèches rouges indiquaient les forces anshaniennes en mouvement, et des étoiles de la même couleur représentaient les troupes en garnison. Sur chaque marqueur, un petit drapeau indiquait le numéro et la composition de la division. Mais ce n'était pas ça, le hic. Sur toute la carte, des disques noirs signalaient des sites d'escarmouches ou de batailles, et des blancs symbolisaient les troupes ennemies, presque toujours sans indication de nationalité. Comment pouvait-il y avoir tant d'ennemis au Tarabone, un pays aussi sûr que...
« Que s'est-il passé ?»
demanda Surotte.
« Il y a 3 heures, des Rakens sont arrivés avec des messages du lieutenant-général Touran. »
annonça Galgan sur le ton de la conversation. Une manière de ne pas faire son rapport. Et en gardant les yeux baissés sur la carte pour ne pas croiser ceux de Surotte.
« Mis bout à bout !»
continua l'officier.
« Ces messages composent un rapport, mais celui-ci n'est pas complet, et il restera ainsi un moment. Mais on peut dégager de grandes lignes. Depuis l'aube d'hier, 7 camps d'intendance majeurs ont été attaqués et incendiés. Une 20aine, bien plus petits, ont subi le même sort. Autant de caravanes au moins ont fini en cendres, et 17 avant-postes mineurs ont été rayés de la carte. Ajoutons à ce compte les 11 patrouilles portées disparues et les 15 escarmouches diverses. Ah, j'allais oublier les raids contre nos colons. Les pertes civiles sont légères. Pour l'essentiel, des fermiers qui tentaient de défendre leurs biens. Mais les dégâts matériels se révèlent importants. Beaucoup de chariots, d'entrepôts et même de fermes ont brûlé. Et partout, on trouve le même message. Fichez le camp du Tarabone. Ces exactions sont l'œuvre de bandes qui comptaient entre 200 et 500 hommes. En tout, on estime que 10 000 soldats, ou peut-être le double, les ont perpétrés. Presque tous des Tarabonais, faut-il préciser. Et la plupart arboraient une armure couverte de rayures.
Sourotte aurait volontiers grincé des dents. Si Galgan commandait les soldats du retour, c'était elle qui dirigeait les éclaireurs. Et à ce titre, elle avait l'autorité sur lui, malgré sa crête et ses ongles vernis de rouge. Si Galgan, jusque-là, n'avait pas cherché à prendre sous son commandement les éclaireurs, c'était à cause de la disparition de Tuon. Fine mouche, le gaillard ne tenait pas à en assumer la responsabilité. Et surtout, il n'avait aucune envie de devoir s'excuser si les choses tournaient mal. Abominer était un euphémisme. En réalité, Sourotte vomissait Galgan.
« Une mutinerie ?»
lâcha-t-elle, fière de son ton glacial. À l'intérieur, elle bouillait de rage. Galgan secoua la tête, faisant osciller sa crête blanche.
« Non, les rapports sont unanimes. Tous nos Tarabonais se sont bien battus. Et parmi nos rares prisonniers, aucun n'appartient à nos alliés. En revanche, beaucoup sont des fidèles du dragon qu'on croyait réfugiés en Arad-Doman. En outre, un nom revient très souvent, Rodel Iturald. Ce Domani tirerait les ficelles de l'entière opération. De ce côté de l'océan, on le tient pour un des plus grands généraux. Et je veux bien croire que tout ça porte sa signature. »
Sourotte en frémit d'indignation. Ce crétin semblait pétri d'admiration pour un ennemi.
« Ce n'est pas une mutinerie, haute dame, mais une attaque massive. Cela dit, notre adversaire ne s'en sortira pas avec tous ses hommes. »
Fidèle du dragon, comme une arête de poisson, ce nom restait coincé dans la gorge de Sourotte.
« Il y a des achamans dans le coup ?»«
Ces hommes capables de canaliser ?»
L'air révulsé, Galgan esquissa un signe censé conjurer le mal.
Aucun rapport ne les mentionne, et ils ne seraient pas passés inaperçus.
Sourotte aurait voulu couvrir Galgan d'injures, mais se défouler sur un autre membre du haut sang aurait entaché son honneur. Pis encore, ça n'aurait servi à rien, mais il fallait que sa rage sorte. La haute dame était très fière de ce qu'elle avait accompli au Tarabone, et soudain, ce pays semblait être revenu au chaos dont elle l'avait tiré. Tout ça à cause d'un seul homme.
« Ce maudit Iturald, je veux sa tête, capitaine général. »«
Il paiera, ne vous inquiétez pas. »
Galgan baissa les yeux sur la carte pour étudier certains petits drapeaux.
« Turan ne tardera pas à le renvoyer en Arad-Doman, la queue entre les jambes. Avec un peu de chance, il le fera même prisonnier. »«
Un peu de chance ?»
s'écria Sourotte.
« Je ne me fie jamais au hasard. »
Cette fois, elle explosait. Et elle n'envisagea pas de se contenir. Comme si Iturald s'y cachait, elle balaya la carte du regard.
Si Turan doit traquer une centaine de bandes, selon vos dires, il lui faudra beaucoup d'éclaireurs pour les repérer. Et je veux qu'elles le soient toutes. Surtout celles que dirige ce Domani de malheur. Général Yulan, je veux que 9 sur 10, présents en Altara et en Amadicia, soient transférés au Tarabone. Avec ça, si Turan ne réussit pas, nous verrons si sa tête suffira à apaiser ma colère. »
Petit homme à la peau noire en tunique bleue brodée d'aigle à crête sombre, Yulan devait s'être apprêté trop vite pour appliquer sur son crâne la substance qui tenait en place sa perruque. Sinon, pourquoi l'aurait-il touché sans cesse pour ajuster sa position? Yulan était capitaine de l'air au sein des éclaireurs. Son homologue dans le retour était seulement général de bannière, car son supérieur, plus gradé, avait péri pendant le voyage. Du coup, Yulan ne risquait pas que ce rival lui mette des bâtons dans les roues.
Une excellente décision, haute dame. Cela dit, puis-je suggérer de laisser en place les Rakens d'Amadicia et ceux que commande la générale de bannière Kirgan? Les Rakens sont sans égaux quand il s'agit de repérer des Aiel, et en 2 jours, nous n'avons toujours pas localisé les capes blanches. Le général Turan aurait quand même...
Les Aiel nous posent chaque jour un peu moins de problèmes,
coupa Sourotte.
Et une poignée de déserteurs ne représente rien.
Une main tenant sa perruque, Yulan hocha la tête. Après tout, il n'était pas membre du haut sang.
7 000 hommes, marmonna Galgan. Ça fait beaucoup pour une poignée.
On ne discute pas mes ordres,
explosa Sourotte. que les soi-disant fils de la lumière soient maudits. Pour l'heure, elle n'avait pas encore décidé si Asunawa et ses quelques milliers de fidèles, restés loyaux à l'Empire, deviendraient ou non des Dakovalé. Ils n'avaient pas trahi, certes, mais combien de temps ça durerait? D'autant plus qu'Asunawa ne cachait pas sa haine des Daman. Un grand instable, celui-là. Comme si rien de tout ça ne le dérangeait, Galgan haussa les épaules. Du bout d'un ongle verni de rouge, il traça des lignes sur la carte, anticipant des mouvements de troupes.
« Tant que vous ne voudrez pas aussi les Thoraken, je n'émettrai aucune objection. Ce plan-là doit se poursuivre. L'Altara est tombé entre nos mains comme un fruit mûr. Je ne suis pas encore prêt à passer à Lilian, et nous devons effectivement pacifier de nouveau le Tarabon. Si on ne garantit pas sa sécurité, le peuple se retournera contre nous. »
Souroth regretta d'avoir laissé paraître sa colère. Ce type n'émettrait pas d'objection? Il n'était pas prêt à passer à Lilian?
À mots couverts, que disait-il?
Sinon qu'il ne se sentait pas obligé d'obéir aux ordres de la haute dame. De l'insubordination, mais feutrée, histoire de ne courir aucun risque.
J'entends qu'on transmette à Touran le message suivant, dit Souroth d'un ton serein qui lui coûta des trésors de volonté. Même s'il doit traquer Rodel et Tourald jusqu'au fin fond de l'Arad d'Oman, puis dans la flétrissure, je veux qu'il m'envoie un jour sa tête. Et s'il n'y parvient pas, je me consolerai avec la sienne.
Galgan fit la moue, puis consulta de nouveau la carte.
Touran a parfois besoin qu'on lui chauffe un peu les fesses. Quant à l'Arad d'Oman, il le connaît comme sa poche. Très bien, haute dame. Votre message sera envoyé.
Incapable de rester plus longtemps dans la même pièce que ce pantin, Souroth partit sans prononcer un mot. Pour ne pas crier, c'était la seule solution. Sur le chemin de sa chambre, elle ne prit pas la peine de cacher sa rage. Les gardes de la mort firent comme s'ils ne voyaient rien, comme d'habitude. Hors d'elle, Souroth claqua derrière elle la porte de l'antichambre. Un bruit qui ferait peut-être sursauter les deux colosses. Sur le chemin de son lit, Souroth se débarrassa de ses pantoufles, défit la ceinture de sa robe de chambre et laissa tomber le vêtement sur le sol. Elle devait trouver Tuon. C'était impératif. Si elle avait pu deviner le plan de la fille des neuf lunes, ça lui aurait donné une idée de sa cachette. Si seulement. Soudain, les murs, le plafond et même le sol de la chambre émirent une lumière argentée. Avec un petit cri, Souroth pivota lentement sur elle-même pour étudier la cage de lumière où elle était prisonnière. Ce faisant, elle découvrit une femme composée de flammes crépitantes et vêtue de feu liquide. De nouveau debout, Almand Daragal n'attendait qu'un ordre pour attaquer.
« Je suis ces mirages !»
annonça la femme, sa voix sonnant comme un glas.
« Couchez, Almand Daragal !»
cria Souroth. Enfant, parce que le voir se prosterner devant elle l'amusait, elle avait appris au lopard à obéir à cet ordre. Mais c'était la première fois qu'elle le lançait tout en se mettant elle aussi à plat ventre. Le visage contre le tapis, elle souffla.
« Je vis pour obéir et servir, grande maîtresse. »
Sur l'identité de la femme, aucun doute n'était possible. Au monde, personne n'aurait osé usurper ce nom-là. Et qui d'autre pouvait prendre l'apparence d'un feu vivant?
« On dirait bien que tu vis aussi pour gouverner, »
fit Sémirage, un instant amusé. Mais ça ne dura pas.
« Regarde-moi quand je parle. Je déteste cette façon d'essayer à Nchanien de ne jamais croiser mon regard. On dirait que vous me cachez toujours quelque chose. Ma fille, tu n'essaierais pas de m'abuser, pas vrai ?»« Bien sûr que non, grande maîtresse, »
fit Souroth en se redressant assez pour s'asseoir sur les talons.
« Ça ne me viendrait pas à l'idée. »
Levant les yeux, elle les riva sur la bouche de ses mirages. Remonter jusqu'à ses yeux la terrorisait trop, mais sûrement que ce gros effort suffirait.
« C'est mieux, »
approuva l'élu.
« Bien. Jusqu'où va ton désir de pouvoir exactement ?»«
Au prix de quelques morts, Galgan et une poignée d'autres, tu pourrais t'autoproclamer impératrice. »«
Avec mon aide, évidemment. »« Ce n'est pas si important que ça, mais l'occasion fait la larronne. Et tu serais bien plus coopérative que l'impératrice actuelle. »
L'estomac retourné, Souroth redouta de devoir le vider.
« Grande maîtresse, le châtiment pour un tel crime est de paraître face à la véritable impératrice, puisse-t-elle vivre éternellement, puis d'être écorchée vive devant ses yeux. Ensuite, une punition imaginative, bien qu'un peu primaire, »
coupa ses mirages.
« Mais ta tirade tombe à plat. L'impératrice Radanan est morte. La quantité de sang que peut contenir un corps humain m'étonnera toujours.
Le trône de cristal en était couvert. Accepte ma proposition, Surot. Je ne la répéterai pas. Tu me faciliterais la vie, c'est vrai, mais pas assez pour que je m'abaisse à t'implorer.
Surot dut se forcer à prendre une grande inspiration.
Alors, Tuon est la nouvelle impératrice. Puisse-t-elle vivre éternellement.
Tuon prendrait un nouveau nom, qui serait rarement prononcé hors du cercle des intimes. L'impératrice était l'impératrice, tout simplement. Les bras autour du torse, Surot éclata en sanglots. Alarmée, son lopard la regarda comme s'il entendait venir à son secours. Sénirag, elle, éclata de rire.
Tu pleures, Radanan, Surot? Ou est-ce l'idée de voir Tuon sur le trône de cristal?
Entre ses sanglots, Surot expliqua la situation à l'élu. Héritière en titre, Tuon était devenue impératrice à la minute même où sa mère rendait l'âme. Sauf si Radanan avait été assassiné. Un crime ourdi par une de ses sœurs, nécessairement. Et dans ce cas, Tuon aussi avait quitté ce monde. Rien de tout ça ne faisait la moindre différence. Surot devrait retourner à Séandar pour s'excuser du décès d'une éphémère impératrice, et ce devant la femme qui en était responsable. Une fine mouche qui aurait attendu l'annonce officielle de la mort de Tuon avant de faire valoir son droit au trône. Surot ne put se résoudre à dire qu'elle se suiciderait avant d'en arriver là. Énoncée à voix haute, une telle chose était infamante. De toute façon, elle refusait de mourir. Ne lui avait-on pas promis la vie éternelle? Cette fois, le rire de Sémirag, un coup de poignard, coupa le souffle de la haute dame. Sa tête de feu inclinée en arrière, l'élu s'abandonnait à une hilarité sans bornes. Quand elle se fut enfin reprise, elle essuya du bout des doigts les flammèches qui lui tenaient lieu de larmes.
Je n'ai pas été assez précise,
lâcha-t-elle.
Radanan est morte, tout comme ses filles, ses fils et la moitié de la cour. Il n'y a plus de famille impériale, à part Tuon. Et il n'y a plus d'empire. Comme des dizaines d'autres villes, Séandar est entre les mains d'émeutiers et de pillards. 50 nobles au moins se disputent le trône, leurs armées s'entretuant. Des monts Aldael à Salaking, la guerre civile fait rage. Du coup, tu peux en toute sécurité te débarrasser de Tuon et prendre sa place. J'ai fait en sorte qu'un bateau arrive bientôt avec des nouvelles du désastre en cours.
S'esclaffant de nouveau, Sémirage prononça une phrase étrange.
« Que règne le seigneur du chaos !»
Contre sa volonté, Surot écarquilla les yeux. L'Empire était détruit. Sémirage avait assassiné l'impératrice. Au sein du sang, haut ou non, et même de la famille impériale, le meurtre n'était pas une pratique inconnue. Mais qu'une personne extérieure frappe ainsi le cercle intime du pouvoir était impensable. Même s'il s'agissait d'une des Dakontion, ces êtres de légende qu'on nommait les élus sur ce continent. Devenir impératrice, même en exil? Soudain, Surot eut une folle envie d'éclater de rire. Elle pourrait boucler le cycle, prendre d'abord ce continent, puis charger son armée de reconquérir le Seanchan. Non sans effort, elle parvint à reprendre le contrôle de ses nerfs.
Grande maîtresse, si Tuon est encore vivante, la tuer sera très difficile.
Ces paroles écorchèrent la gorge de Surot. Assassiner une impératrice, l'idée même était glaçante. Oui, mais devenir impératrice. Une perspective à vous faire tourner la tête.
Tuon sera accompagné de ses soldats et de ses damans, et des gardes de la mort la protégeront.
Très difficile? Non, ce serait impossible. Sauf si Sémirage daignait s'en charger. Mais même pour elle, si Daman pouvait être un obstacle insurmontable. De plus, un dicton courait dans les rangs des roturiers. Les puissants ordonnent aux gueux de creuser la boue, ainsi ils gardent les mains propres. Surot avait entendu cet aphorisme par hasard, puis fait châtier l'insolent qui le déclamait. Cela posé, la vérité restait la vérité.
Réfléchis, Surot. S'ils avaient su ce que tramait l'héritière, le capitaine Musenge et ses hommes seraient partis la même nuit que Tuon. À présent, ils la cherchent. Tu dois tout faire pour la trouver la première, mais en cas d'échec, ces gardes de la mort ne la protégeront peut-être pas tant que ça. Dans ton armée, tous les soldats savent qu'une partie des gardes, au moins, sont complices d'une usurpatrice. De l'avis général, cette femme et tous ceux qui la soutiennent devraient être écartelés, leur reste enfoui dans un donjon, en secret, pour que la honte ne retombe pas sur l'Empire.
Ce plan tenait la route. Repérer un groupe de gardes de la mort serait assez facile. Si elle apprenait combien d'hommes Musenge avait emmenés, Surot pourrait envoyer Elbar avec une force 50 fois supérieure. Non, 100 fois, pour compenser les Daman. Ensuite...
Grande maîtresse, tu as conscience que je ne peux pas m'autoproclamer impératrice avant d'être sûre du décès de Tuon.
Ça va de soi,
fit Semirage, de nouveau amusé. Un glas joyeux, en voilà encore une nouveauté.
Mais n'oublie pas,
si Tuon se remontre,
ça ne me dérangera pas.
Alors, ne tarde pas à agir. C'est compris, grande maîtresse. Je tiens à monter sur le trône et pour ça, il me faut tuer l'impératrice.
Au fil des minutes, cette idée devenait de moins en moins choquante. Selon Pevara, les appartements de Tsutamarat dépassaient toutes les limites de la flamboyance pour sombrer dans le gouffre sans fond de l'extravagance. Les modestes origines de Pevara, fille d'un humble boucher, n'étaient pour rien dans ce jugement. Le salon, par exemple, lui mettait les nerfs en pelote. Sous des moulures dorées sculptées en forme d'hirondelles en plein vol, deux des murs étaient tendus de tapisseries du plus mauvais effet. L'une offrait au regard un parterre de roses rouges, et l'autre un gros buisson de prostanthera aux fleurs grosses comme les deux mains croisées de Pevara. Sans les dorures et les sculptures qui auraient largement suffi à un trône, les chaises et la table auraient pu être agréables à regarder. Même chose pour les lampes et le manteau de la cheminée, en outre sculptés d'étalons au galop. Au-dessus d'un foyer en marbre veiné de rouge, l'effet était garanti. Sur les guéridons, des porcelaines du peuple de la mer, 4 vases et 6 coupes, le tout hors de prix, voisinaient avec des statuettes en jade ou en ivoire. Pas des petites pièces, il fallait le préciser. Quant à la figurine de femme en train de danser, un peu plus modeste, elle semblait avoir été taillée dans un rubis géant. Un grossier étalage de richesse aux yeux de Pevara. Pour ne rien arranger, en plus de la pendule dorée qui reposait sur le manteau de la cheminée, on en trouvait une deuxième dans la chambre et une troisième dans le boudoir. 3 pendules. Même sans dorure ni rubis, ça aurait été ostentatoire. Pourtant, la pièce faisait un écrin parfait pour la femme assise en face de Pevara et Javindra. Là encore, le mot « flamboyance » s'imposait. D'une beauté hors du commun, Tsutama portait un filet d'or sur les cheveux et des pierres précieuses énormes ornaient le lobe de ses oreilles et brillaient autour de son cou. Comme toujours, elle était vêtue d'une robe de soie écarlate brodée de fils d'or qui, aujourd'hui, moulait étroitement son opulente poitrine. Sans la connaître, on aurait pu croire qu'elle cherchait à faire bouillir le sang des hommes. En réalité, longtemps avant d'être chassée de la Tour Blanche, elle ne faisait pas mystère de son aversion pour les mâles. Face à un chien enragé, elle aurait fait montre de plus de compassion que devant un membre de la gent masculine. Avant son exil, Tsutama avait la réputation d'être plus dure que la pierre. Pourtant, lors de son retour parmi les Aes Sedai, beaucoup l'avaient vue comme un roseau brisé. Mais cette impression n'avait pas duré. Très vite, toutes les sœurs qui la fréquentaient s'étaient aperçues que son regard sans cesse en mouvement ne trahissait aucune nervosité. L'exil l'avait changé, certes, mais pas adouci, très loin de là. Ses yeux, c'étaient ceux d'un félin en chasse, toujours à l'affût d'une proie ou d'un ennemi. Le reste du visage de cette femme n'était en rien serein. Impassible, oui, et impénétrable comme un masque, sauf quand on la mettait en colère en tout cas. Même là, sa voix restait calme et glaciale, une combinaison éprouvante pour les nerfs.
« Ce matin, » dit-elle, « j'ai entendu des rumeurs dérangeantes sur la bataille des puits de Doumaï. Très dérangeantes. »
Désormais, les longs silences, sans l'ombre d'un bavardage, suivis de déclarations surprenantes, étaient la signature de Tsutama. Et son séjour dans une ferme isolée l'avait initié à un langage parfois coloré.
Par exemple, 3 des sœurs mortes appartenaient à notre Aja, par le lait d'une mère dans une tasse.
Toute la tirade sur le même ton monocorde, mais des yeux accusateurs volant d'une sœur rouge à l'autre. Pevara ne se laissa pas démonter. Tous les regards de la dirigeante de l'Aja rouge semblant accusateurs, il ne fallait surtout pas marquer le coup. Comme un faucon, cette femme fondait en piqué sur la moindre faiblesse.
Je ne vois pas pourquoi Catherine désobéirait à ton ordre et cesserait de garder pour elle ce qu'elle sait. Et tu ne peux pas penser sérieusement que Tarna serait capable de médire Delaïda.
au moins pas en public. Sur ses sentiments envers Elaïda, Tarna veillait plus jalousement qu'un chat sur un trou de souris.
Mais les sœurs reçoivent des nouvelles de leurs espions. Nous ne pouvons pas les empêcher d'apprendre ce qui s'est passé au puits.
Pour être franche, je m'étonne que ça ait pris si longtemps.
Pourtant c'est ainsi,
fit Javindra en tirant sur sa jupe. À part sa bague au serpent, cette sœur anguleuse de toutes parts ne portait pas de bijoux. Sans aucun ornement, sa tenue était d'un rouge assez sombre pour paraître noire.
Même si nous nous échinons jusqu'à en faire saigner nos doigts, la vérité sortira tôt ou tard du... puits.
Les lèvres serrées, Javindra donnait en permanence l'impression de mordre quelque chose. Là, elle semblait pourtant satisfaite. Étrange, ça. De notoriété commune, elle était le caniche d'Elaïda. Soutama la foudroya du regard. Très vite, Javindra s'empourpra. Sans doute en quête d'un prétexte pour détourner le regard, elle prit sa tasse, dorée à l'or fin et décorée de léopard et de cerf selon le style de Tsutama, et but un peu d'infusion. La supérieure continua à fixer le même point. Sur Javindra ou au-delà, Pevara aurait été bien en peine de le dire. Lorsque Catherine avait évoqué la mort de Galina au puits de Dumaï, Tsutama, quasiment par acclamation, avait été choisie pour la remplacer. Avant d'être impliquée dans les événements peu glorieux qui avaient provoqué sa chute, elle jouissait en tant que représentante d'une excellente réputation. Parmi les sœurs rouges, beaucoup pensaient qu'il était temps d'élire une dirigeante plus dure encore que toutes celles qui l'avaient précédée. La fin de Galina avait soulagé Pevara d'un poids écrasant. La supérieure de l'âge à rouge, un suppôt des ténèbres, quelle torture! Pourtant, au sujet de Tsutama, Pevara restait dubitative. Chez cette femme, depuis son retour, il y avait quelque chose de sauvage. Une part d'imprévisibilité, en tout cas. Était-elle totalement saine d'esprit? Certes, mais cette question ne valait-elle pas pour toute la Tour Blanche? Désormais, combien de sœurs n'étaient pas au bord de la folie? Comme si elle lisait les pensées de Pevara, Tsutama posa ses yeux de glace sur elle. Contrairement à Javindra et à tant d'autres, celle-ci ne sursauta pas, et ses joues ne se colorèrent pas. Cela dit, elle regretta que Douara ne soit pas là, histoire de fournir à la supérieure une troisième cible. Plus sérieusement, elle aurait donné cher pour savoir où était partie cette femme et pour quelle raison. Enfin, une armée rebelle campait autour de Tarvalon. Et Douara, sans un mot d'explication, avait pris un bateau pour une direction qui restait inconnue. Par les temps qui couraient, Pevara se méfiait de tout, et presque de toutes.
Supérieure, nous as-tu convoqué à cause du contenu de cette lettre ?
Demanda enfin Pevara. Sous le regard de glace de la dirigeante, elle avait tenu le coup longtemps. À présent, elle aurait bien pris aussi sa tasse, en regrettant qu'elle ne contienne pas du vin. Joignant le geste à l'intention, elle but et reposa la tasse sur l'étroit accoudoir de son fauteuil. Sous le regard des deux autres femmes, elle eut le sentiment que des araignées grouillaient sous sa peau. Après une petite éternité, Tsutama baissa les yeux sur la lettre posée sur ses genoux. Si elle ne l'avait pas tenue, la missive se serait enroulée pour former un petit cylindre. Sur le nouveau type de parchemin très fin qui servait à envoyer des messages par pigeon, du papier, disait-on, les petites lettres apparaissaient par transparence. Un texte très dense, visiblement.
« C'est une lettre de Sacha Landerly »,
annonça la dirigeante de l'âge à rouge. Cette nouvelle arracha un grognement indistinct à Javindra. Pevara, elle, eut une moue désolée. Pauvre Sachal. Inaccessible à la compassion, Tsutama continua sur le même ton neutre.
Cette maudite femme doit croire que Galina s'en est tirée, puisque la lettre lui est adressée. Pour l'essentiel, son récit confirme ce que nous savons par d'autres sources, y compris Tovein. Mais sans jamais les nommer, elle ose affirmer être à la tête de la plupart des sœurs présentes à Kairien.
Comment peut-elle commander ne serait-ce qu'une sœur?
Fit Javindra, l'air de ne pas en croire ses oreilles.
Aurait-elle perdu l'esprit?
Pevara se garda de tout commentaire. Tsutama lâchait des informations quand ça lui chantait, donc très rarement lorsqu'on lui posait une question. Également adressée à Galina, la lettre antérieure de Tovei ne mentionnait pas du tout sa châle, ni les deux autres sœurs calmées après la bataille des puits de Dumaï. Mais bien entendu, Tovein était révulsé par ce sujet. Y penser suffisait à lui donner le sentiment de mordre dans une prune pourrie. En conséquence, l'essentiel de son discours consistait à faire reposer le blâme sur Elaïda. Indirectement, certes, mais en la chargeant au maximum. Comme des armes de jet, les yeux de Tsutama semblèrent vouloir transpercer ceux de Javindra, mais elle reprit quand même sa tirade.
Sachal décrit la fichue visite à Kairienne de Tovein et des autres sœurs, en compagnie des achamans de malheur. À l'évidence, elle ignore tout du maudit lien. Du coup, elle a trouvé très étrange que des sœurs fraient avec des achamans en des termes tendus, certes, mais souvent amicaux. Par le fichu sang et les fichus cendres, que la lumière me brûle. C'est ainsi qu'elle évoque les choses.
Le ton de la supérieure, parfait pour discuter le prix de la dentelle sur un marché, et son langage leste, ne trahissait rien de ce qu'elle pensait vraiment sur cette affaire.
Quand ils sont tous partis, ajoute Sachal, ces gens ont emmené les fichus champions des sœurs qui, selon elle, sont avec le garçon. Si deux et deux font bien quatre, il semble certain que Tovein et les autres cherchaient Altor, et qu'elles l'ont probablement trouvé à l'heure actuelle. Sachal ignore pourquoi elle le cherchait. En revanche, elle confirme ce que Tovein prétendait au sujet de Loghain. Apparemment, ce maudit type n'est plus apaisé.
Impossible,
marmonna Javindra dans les profondeurs de sa tasse. Apparemment, Sutama n'entendit pas. C'était tant mieux, parce qu'elle détestait qu'on mette en doute sa parole. Prudente, Pevara garda son opinion pour elle et but une nouvelle gorgée d'infusion. Jusque-là, cette lettre semblait n'avoir aucun intérêt. À part peut-être le passage où Sachal prétendait être chef des autres sœurs. Mais quel intérêt avaient les faits et gestes de cette femme, ou ses intimes convictions? L'infusion avait un goût prononcé de myrtille. Où Tsutama en avait-elle trouvé au début du printemps? Mais il s'agissait peut-être de fruits séchés.
« La suite, je vais vous la lire, »
dit Tsutama. Dépliant la lettre, elle la parcourut du regard, presque jusqu'à la fin avant de commencer. Visiblement, Sachal était entré dans les détails. Combien la supérieure en avait-elle gardé pour elle? Des soupçons, toujours.
« Je suis resté longtemps sans écrire, parce que je ne savais pas comment m'y prendre pour dire ce qui doit être dit. À présent, j'ai compris qu'exposer les faits, tout simplement, est le seul moyen. Comme beaucoup d'autres sœurs, auxquelles je laisse la liberté de le révéler ou non, j'ai juré allégeance au dragon réincarné, un engagement qui durera jusqu'à ce que l'ultime bataille ait eu lieu. »
Javindra écarquilla les yeux et poussa un petit cri. Pevara, elle, ne broncha pas. Taveren. Oui, ce devait être ça. Cette notion, sans nul doute, expliquait presque toutes les rumeurs perturbantes qui arrivaient de Kairienne. Imperturbable, Tsutama continua sa lecture.
Ce que j'ai fait, c'était pour le bien de l'Aja Rouge et de la Tour Blanche. Si on me désavoue, je me plierai docilement à tout ce qu'on m'imposera. Après Tarmon Gaidon, bien entendu. Comme vous le savez peut-être, supérieur, Irgain Fatamed, Ronai Vevenios et moi avons été calmés après l'évasion du dragon réincarné au puits de Dumaï. Mais nous avons été guéris par un achaman nommé Damer Flynn, et nous semblons être redevenus comme avant. Si invraisemblable que ça paraisse, je jure sur la lumière que c'est la vérité. Désormais, j'attends avec impatience mon retour à la Tour Blanche, où je prêterai de nouveau les trois serments pour réaffirmer ma loyauté à l'Aja Rouge et à notre communauté.
Tsutama replia la lettre et hocha pensivement la tête.
Ce n'est pas la fin, mais le reste est un fichu plaidoyer. Du blabla pour insister sur sa dévotion pour la tour et pour notre Aja.
Dans les yeux de la supérieure, une lueur laissa penser que Sachal, si elle s'en sortait, regretterait d'avoir survécu à l'ultime bataille.
Si Sachal a vraiment été guéri,
commença Pevara. Ne pouvant pas aller plus loin, elle trempa les lèvres dans son infusion, puis en but une gorgée. Cette affaire semblait trop belle pour être vraie. Un flocon de neige qui fondrait dès qu'on le toucherait.
« C'est impossible, »
fit Javindra, mais sans grande conviction. Prudente, elle adressa ce commentaire à Pevara, histoire que la supérieure ne le prenne pas pour elle. Le front plissé, celle-ci ne paraissait pas commode.
« On ne peut pas guérir les hommes apaisés ou les femmes calmées. Avant que ça change, les moutons auront des ailes. Sachal a des hallucinations. »
Tovein peut se tromper,
dit Tsutama avec une grande conviction.
Mais dans ce cas, je ne vois pas pourquoi ces maudits achamans auraient admis Loghain en leur sein, et, plus encore, pourquoi ils le laisseraient commander. Quant à Sachal, comment pourrait-elle faire erreur sur son propre cas? En outre, elle n'écrit pas comme une folle qui a des visions. Parfois, ce qui est fichtrement impossible le reste seulement jusqu'à ce qu'une sœur démontre le contraire. Donc, une femme calmée au moins a été guérie. Par un homme. Les satanés envahisseurs séanchaniens enchaînent toutes les femmes capables de canaliser qui leur tombent sous la main, y compris un certain nombre d'Aes Sedai. Il y a 12 jours, mais vous savez aussi bien que moi ce qui est arrivé. Désormais, le monde est plus dangereux qu'à l'époque des guerres des Trollocs, voire de la dislocation. En conséquence, Pevara, j'ai décidé de poursuivre notre plan concernant les maudits Ashaman. C'est risqué et désagréable, mais nous n'avons pas le choix. Avec Javindra, tu te chargeras des opérations. Pevara fit la grimace. Pas à cause des Séanchaniens, de simples humains malgré les étranges terrangréales qu'ils possédaient. Au bout du compte, ils seraient vaincus. En revanche, ce que les rejetés avaient fait 12 jours plus tôt, pour manier tant de pouvoir sur un seul site, il fallait que ce soit eux. Le plus possible, Pevara tentait de ne pas penser à ce qu'ils avaient tenté de faire, ou pire encore, à ce qu'ils avaient réussi. Mais il n'y avait pas que ça. Avoir pour mission de lier des Ashaman à des sœurs n'avait rien de plaisant. Cela dit, dès qu'elle avait présenté à Tsutama la proposition de Tarna, en frémissant à l'idée de l'explosion de colère qui risquait de s'ensuivre, c'était devenu inévitable. N'avait-elle pas évoqué en plus la possibilité de renforcer les cercles en y incluant des hommes? Pour lutter contre l'extraordinaire déchaînement de pouvoir, tout était bon à prendre. Bizarrement, il n'y avait pas eu de colère et même pas d'irritation. Très calme, Tsutama avait annoncé qu'elle réfléchirait à la question et insisté pour que la bibliothèque lui fasse parvenir les textes relatifs aux cercles et aux mâles. Le plus désagréable dans tout ça restait de devoir travailler avec Javindra pour accomplir une mission plus que déplaisante. Outre que collaborer avec cette femme n'était jamais une sinécure, à part à ses propres suggestions, elle n'acquiesçait jamais à rien sans discutailler, Pevara avait d'autres chats à fouetter pour le moment. Javindra, à l'origine, était opposée à l'idée de lier des Ashaman aux sœurs rouges. En réalité, elle aurait réagi ainsi, même si c'était agi d'homme incapable de canaliser. L'ordre venant de tout en haut, elle ne pouvait plus rien faire, ce qui ne l'empêcha pas de bavasser.
« Elaïda ne permettra jamais ça », marmonna-t-elle.
Tsutama foudroya de nouveau sa subordonnée du regard. Pétrifiée, Javindra n'osa plus respirer.
« Elle n'en saura rien avant qu'il soit trop tard, ma fille. Ses secrets tels que les désastres du raid contre la Tour Noire ou la débandade depuis de Doumaï, je les préserve parce qu'elle est originaire de l'Aja Rouge. Mais en tant que chère d'Amirline, elle appartient à tous les Ajas et à aucun. Or, cette affaire ne concerne que l'Aja Rouge, donc elle ne la regarde pas. »
Le ton menaçant, Tsutama n'avait pas lâché un seul juron, la preuve qu'elle était à bout de patience. « Me contredirais-tu sur ce point? Comptes-tu prévenir Elaïda contre ma volonté ?»«
Non, supérieur, »
répondit très vite Javindra, avant de plonger quasiment le nez dans sa tasse. Très bizarrement, pour cacher un sourire, aurait-on dit. Pevara se contenta de hocher la tête. Si le plan devait être exécuté, et selon elle, il le fallait, Elaïda ne pouvait pas avoir son mot à dire. Mais pourquoi ce sourire de Javindra? Décidément, les soupçons foisonnaient.
« Je suis très contente que vous soyez toutes les deux d'accord avec moi, »
lâcha sèchement Tsutama.
« À présent, veuillez me laisser. »
Les deux sœurs prirent juste le temps de poser leur tasse et de saluer leur dirigeante. Dans l'Aja Rouge, quand la supérieure parlait, nul ne discutait, y compris les représentantes. L'unique exception, selon les lois de l'Aja, étaient les votes dans le hall. Mais certaines détentrices du poste, avant Tsutama, avaient fait en sorte qu'aucun scrutin important n'aille contre leur volonté. L'actuelle supérieure, Pevara l'aurait juré, était du lot. À l'évidence, la lutte serait déplaisante. Mais avec un peu de chance, elle pourrait rendre coup pour coup. Dans le couloir, Javindra marmonna quelque chose au sujet d'une correspondance, puis elle partit à la course sur les dalles blanches marquées de la flamme rouge de Tarvalon avant que Pevara ait pu ouvrir la bouche. Donc elle eut l'intention de parler, mais... Eh bien, aussi sûr que les noyaux de pêche étaient empoisonnés, cette maudite bonne femme se débrouillerait pour traîner les pieds et lui laisser tout le travail. La dernière chose dont elle avait besoin au pire moment possible. Passant chez elle pour prendre son châle et vérifier l'heure, midi moins le quart, elle manqua à être déçue que son horloge donne la même indication que celle de Tsutama. Avec ses mécanismes, c'était loin d'être toujours le cas. Sans tarder, Pevara quitta les quartiers de l'Aja Rouge et descendit jusqu'aux salles communes. Vivement éclairées par des lampes à déflecteurs, les grands couloirs étaient presque déserts, ce qui leur donnait une allure vaguement caverneuse, malgré leurs murs blancs décorés de frises. Dès qu'une tapisserie bougeait sous l'effet d'un courant d'air, on aurait juré que la soie ou la laine prenait vie, un peu comme dans un rêve où des spectres apparaissent. En chemin,
Pevara croisa seulement des serviteurs des deux sexes, la flamme de Tarvalon sur la poitrine de leur livrée. Pressés, ils prenaient à peine le temps de saluer la sœur rouge, mais ils gardaient au moins les yeux baissés. Alors que la guerre des Aja faisait rage, la tension et l'agressivité contaminaient aussi les domestiques. À tout le moins, elles les terrorisaient. À la tour, selon l'estimation de Pevara, il restait moins de 200 sœurs. Sachant qu'elles se confinaient dans leur quartier, sauf absolue nécessité, en rencontrer une était peu probable. Du coup, Pevara sursauta quand Adelorna Bastine déboula devant elle au sortir d'un escalier latéral. Petite et mince et pourtant majestueuse, la sœur originaire du Saldaea n'accorda pas un coup d'œil à sa collègue. Portant elle aussi son châle, désormais, aucune Aeseda ne s'aventurait hors du fief de son Aja sans ce signe de reconnaissance, Adelorna était suivie par ses trois champions. De taille et de corpulence différentes, tous portaient une épée au côté, et leurs yeux volaient sans cesse de droite à gauche. Dans la tour, des champions en armes et sur leur garde. Voilà où on en était arrivé. Si banal que ce fût désormais, Pevara en aurait pleuré. Enfin, s'il n'y avait pas eu trop de raisons de se lamenter pour se concentrer sur une seule. Faute de mieux, autant se consoler en arrangeant ce qui pouvait l'être. Tsutama pouvait bien entendu ordonner au sort rouge de se lier à des achamanes et de ne pas en avertir Elaïda. Cela dit, il semblait judicieux de commencer par des femmes enclines à se rallier spontanément à cette idée. Surtout depuis qu'on parlait à voix basse de trois sœurs oxyses par des achamanes. Tarnafer ayant souscrit au plan, et même plus que ça, une conversation très privée avec elle s'imposait. Si tout allait bien, elle connaîtrait d'autres femmes partageant son point de vue. Après, la grande difficulté serait de présenter l'idée aux achamanes. Même s'ils avaient lié 51 sœurs, il semblait improbable qu'ils se montrent enthousiastes. Au nom de la lumière, 51. Pour tenter de les convaincre, il faudrait une sœur douée pour la diplomatie et maîtresse de l'éloquence, avec en sus des nerfs d'acier. Pevara passait des noms en revue lorsqu'elle vit la femme qu'elle venait rencontrer, en avance au point de rendez-vous et donnant le change en feignant d'admirer une tapisserie. Petite et mince, mais le port royal, dans sa robe de soie argentée, de la dentelle un rien plus foncé autour du cou et des poignets, Yukiri, très détendue, semblait pour de bon fascinée par la tapisserie. Pevara l'avait vu s'énerver en une seule occasion, et ce jour-là, devoir soumettre Talen à la question avait bouleversé toutes les sœurs présentes. Comme toujours, Yukiri était seule. Pourtant, racontait-on, elle songeait à reprendre un champion. Sans doute à cause de sa situation personnelle et des temps qui couraient. Pevara elle-même n'aurait pas craché sur un ou deux protecteurs.
« C'est en soi peu réaliste, »
lança Pevara,
« où tout est sorti de l'imagination de l'artiste. »
La tapisserie montrait une très ancienne bataille contre les Trollocs, du moins le prétendait-elle. Très souvent, ses œuvres étaient réalisées longtemps après les faits, et les tapissiers avaient tendance à broder. Cette pièce était si ancienne qu'il avait fallu la renforcer pour l'empêcher de tomber en poussière.
Pevara, j'en sais autant sur les tentures qu'un cochon sur les métiers de la forge.
Malgré toute son élégance, Yukiri tardait rarement à laisser paraître ses origines paysannes. Tirant sur son châle, elle fit onduler ses franges argentées.
Tu es en retard. Donc, entrons dans le vif du sujet. Je me sens comme une poule épiée par un renard. Marie s'a craqué ce matin, et je lui ai fait prêter le serment d'obéissance. Mais comme d'habitude, son unique contact au sein d'un autre cœur est à l'extérieur de la tour, avec les renégats, je suppose.
Avisant deux servantes qui approchaient avec un gros panier d'osier plein de linge propre soigneusement plié, Yukiri se tut, en attendant qu'elle soit passée. Pevara soupira de frustration. Au début, tout avait paru si encourageant. Terrifiant et écrasant aussi, mais ça semblait bien parti. Talen connaissait le nom d'une seule sœur noire présente à la tour. Une fois Atuan promptement enlevé, Pevara aurait préféré parler d'une arrestation, mais vu le nombre de lois et de coutumes violées, c'était impossible, elle avait très vite été incitée à livrer les deux autres membres de son cœur. Karal Sangir, une domanie de la Jagri, et Marie Stornil, une andorienne du Marron. Dans le lot, seul Karal avait un champion, lui aussi un suppôt des ténèbres. Coup de chance, après avoir appris que son Aes Sedai l'avait trahi, il avait absorbé du poison dans la pièce souterraine où il était enfermé pendant qu'on interrogeait sa complice. Appeler ça un coup de chance semblait bizarre, mais le bâton des serments agissait seulement sur les personnes capables de canaliser, et les chasseuses de sœurs noires étaient trop peu nombreuses pour surveiller et entretenir des prisonniers. Oui, un très bon début, malgré la tension et l'angoisse. Mais à présent, les chasseuses étaient dans une impasse, sauf si une des autres sœurs noires revenait à la tour. En attendant, il faudrait recommencer à chercher des contradictions entre ce que certaines sœurs prétendaient avoir fait et ce qu'elles avaient réellement accompli, preuve à l'appui. Un exercice périlleux, quand on connaissait la tendance à l'ambiguïté de la plupart des Aes Sedai. Certes, Talen et les trois autres diraient tout ce qu'elles savaient et parleraient de tout ce qui leur était passé entre les mains. Serment d'obéissance oblige. Mais tout message moins prosaïque que « prends tel objet et apporte-le à cet endroit » serait rédigé dans un code connu seulement de l'expéditrice et de la destinataire. Certains étaient même protégés par un tissage qui désintégrait l'encre si le sceau était brisé par la mauvaise personne. Cette défense nécessitait une si petite quantité de pouvoir qu'elle passait inaperçue, sauf quand on la recherchait spécifiquement. Même là, il n'existait pas de moyen de la neutraliser. Si la notion d'impasse était peut-être exagérée, les chasseuses, en matière de succès, vivaient une période de vaches maigres. Et bien entendu, il restait le risque que leurs proies apprennent leur existence et se transforment à leur tour en chasseuses. Des ennemis tout aussi invisibles quand elles vous traquaient que lorsqu'on les pourchassait. Au moins, Pevara et ses compagnes connaissaient quatre noms de sœurs noires et détenaient quatre femmes qui avoueraient publiquement être des suppôts. Comme les trois autres, Maris s'empressa d'annoncer qu'elle reniait les ténèbres, se repentait de ses péchés et revenait sous la lumière. Tout ça avec assez de conviction pour rouler son monde dans la farine. Selon toute probabilité, l'Aja Noire était informée de tout ce qui se passait dans le bureau de l'Aïda. Pourtant, le risque devait peut-être être couru. Malgré les dires de Talen, Pevara refusait de croire que la chair d'Amirline fût un suppôt de ténèbres. Après tout, c'était elle qui avait lancé la traque. Elle avait le pouvoir de mettre la tour sans dessus-dessous. La soudaine révélation que l'Aja Noire existait bel et bien pouvait avoir l'effet que n'avait pas eu le retour des renégates avec une armée. En clair, inciter les Aja à cesser de se feuler à la figure et à se serrer les coudes. Très profondes, les blessures de la tour blanche exigeaient un remède de cheval. Les servantes s'étant éloignées, Pevara voulut formuler sa suggestion, mais Yukiri fut plus prompte à prendre la parole.
La nuit dernière, Talen a reçu l'ordre de comparaître devant le Conseil suprême de l'Aja Noire.
La sœur grise fit la grimace, comme si ses mots avaient mauvais goût.
Il semble que ça arrive seulement quand on reçoit une distinction, quand on va être chargé d'une très importante mission ou quand on est soumise à un interrogatoire.
Yukiri refit la grimace. D'après ce que les chasseuses avaient appris, un interrogatoire dans l'Aja Noire était une procédure incroyable et répugnante. Contraindre une femme à intégrer un cercle, compter sur celui-ci pour la faire souffrir, Pevara elle-même en eut la nausée.
Talen ne s'attend ni à une récompense ni à une mission spéciale,
reprit Yukiri.
Logiquement, elle nous demande l'asile. Saïrine l'a cachée au fond des sous-sols, dans une petite pièce. Talen se trompe peut-être, pourtant, j'approuve la décision de Saïrine. Ne rien faire, reviendrait laisser entrer un renard dans un poulailler en croisant les doigts pour que tout se passe bien.
Pevara leva les yeux sur la tapisserie qui les dominait de trois ou quatre bonnes têtes. À grands coups d'épée, de hache, de lance ou de hallebarde, des hommes en armure taillaient en pièces des monstres vaguement humains, qui arborait une gueule de loup ou de sanglier surmontée de cornes de chèvre ou de bélier. À l'évidence, l'artiste avait vu des trollocs, ou au moins des dessins très précis. Dans les rangs des trollocs, on trouvait aussi des hommes, des suppôts des ténèbres, bien sûr. Parfois, affronter le mal impliquait de verser le sang et de recourir à des remèdes de cheval.
Laissons Talen honorer ce rendez-vous,
dit Pevara.
Nous l'accompagnerons toutes. Une surprise à laquelle les sœurs noires ne s'attendront pas. Si nous les tuons ou les capturons, nous aurons coupé la tête du poulet. De plus, le Conseil suprême doit connaître les noms de toutes les traîtresses. Détruire l'Aja Noire est à notre portée.
Yukiri saisit une frange du châle de Pevara et plissa les yeux.
Oui, je vois bien, c'est du rouge. Un instant, j'ai cru que tu avais viré au vert pendant que je ne regardais pas. Ces femmes seront 13 au cas où tu aurais oublié. Même si certains membres de ce conseil ne sont pas à la tour, d'autres viendront les remplacer.
Je sais,
répondit Pevara, agacé. Talen avait déversé des tombereaux d'informations, la plupart à la fois inutiles et terrifiantes. Presque plus qu'un esprit saint pouvait en supporter.
Nous mobiliserons tout le monde. On peut ordonner à Zera et aux autres de nous épauler. Même chose pour Talen et ses trois homologues. Crois-moi, toutes marcheront droit.
Au début, Pevara était mal à l'aise vis-à-vis du serment d'obéissance. Mais avec le temps, on s'habituait à tout.
19 d'entre nous contre 13 sœurs noires,
murmura Yukiri, beaucoup trop patiente pour que ce soit vrai. Même sa façon de rajuster son châle exsudait la patience.
Enfin, quand je dis 13, il y aura sans doute des sœurs pour assurer la sécurité de la réunion. Personne ne veille aussi jalousement sur sa bourse qu'un voleur.
Un vieux dicton agaçant que Pevara ne connaissait pas, sans doute parce que Yukiri venait de l'inventer.
Mieux vaut estimer que nous serons à égalité, voire en infériorité numérique. Combien déplorons-nous de pertes, et pour combien de victimes en face? Plus important, combien de ces femmes s'échapperont-elles? N'oublie pas qu'elles cachent leur visage lors de ces réunions. Si une seule s'en sort, nous ignorons son identité, mais elle saura qui nous sommes et le répétera à toutes ses collègues noires. Couper la tête du poulet, as-tu dit? Moi, je crois plutôt que ça revient à combattre un léopard dans l'obscurité.
Pevara ouvrit la bouche, mais la referma sans dire un mot. Yukiri avait raison. Les chiffres, elle aurait dû les estimer aussi, et en tirer les mêmes conclusions. Mais elle avait envie de frapper sur n'importe qui ou n'importe quoi, et ça n'avait rien de surprenant. La supérieure, peut-être folle alliée, l'avait chargée de convaincre les sœurs rouges, rétives à prendre un champion depuis des lustres, de se lier avec des achamanes, rien que ça. En outre, la traque des suppôts dans la tour était pour le moment au point mort. Frapper, Pevara aurait voulu mordre, oui. De préférence une brique pour y faire des trous. Alors que Pevara pensait la rencontre terminée, venue pour apprendre comment les choses se passaient avec Maris, elle repartirait avec une amère récolte, Yukiri lui tapota le bras.
« Marchons ensemble un moment. Nous sommes restés ici trop longtemps, et je voudrais te demander quelque chose. »
Ces derniers mois, les conversations entre sœurs de différents âges faisaient naître les rumeurs les plus folles. Bizarrement, parler en marchant éveillait moins les soupçons. Une absurdité, mais qu'y faire? Yukiri prit tout son temps pour formuler sa question. Alors que les dalles du sol passaient d'une alternance de vert et de bleu à une combinaison de jaune et de marron, les deux femmes étaient descendues de 5 niveaux dans le grand couloir en spirale avant qu'elles se décident.
L'Aja Rouge a-t-il entendu quelque chose au sujet des Aes Sedai partis avec Tovain?
Pevara faillit s'en mêler les pinceaux. Pourtant, elle aurait dû s'attendre à cette question. Tovain n'était sûrement pas la seule à avoir envoyé une lettre depuis Kairienne.
Nous avons entendu parler de Tovain elle-même.
Pevara dévoila presque tout le contenu de la lettre de Tovain. Dans les circonstances présentes, qu'aurait-elle pu faire d'autre? Elle omit cependant les accusations visant Elaïda et ne précisa pas la date d'arrivée de la missive. Le premier point concernait exclusivement l'Aja Rouge, pouvait-on espérer, et le second aurait requis des explications embarrassées.
« Nous avons eu une lettre d'Akure Vayette, »
révéla Yukiri.
« Par le sang et les cendres !»
Pevara emplissa le front de surprise. Volontiers terre à terre, Yukiri ne se montrait quasiment jamais vulgaire. Cela dit, elle n'avait pas non plus précisé la date d'arrivée de la lettre d'Akure. Il fallait le noter. L'Aja Gris avait-il reçu d'autres lettres de Kairienne en provenance de sœurs ralliées au dragon réincarné? Il n'était pas possible de le demander. Dans cette traque, chaque chasseuse mettait sa vie entre les mains des autres, certes, mais les secrets des Aja restaient des secrets.
Que comptez-vous faire des informations d'Akure? Ne pas les révéler, pour le bien de la Tour Blanche. Seule la dirigeante et les représentantes sont au courant. Evan Elaine pensait qu'il faudrait renverser Elaïda, mais ce n'est pas le moment. Avec la Tour à sauver, laisser Anshania à vaincre et les Achamans à gérer. Cette heure ne viendra peut-être jamais.
Une perspective qui ne réjouissait pas Yukiri. Pevara ravala son irritation. Yukiri avait bien le droit de ne pas aimer Elaïda, mais quand il s'agissait de la chair d'Amirline, la question n'était pas là. Une kyrielle de femmes antipathiques avait porté l'étole et contribué au rayonnement de la Tour Blanche. Mais faire capturer 51 sœurs, était-ce servir efficacement la Tour? Et le désastre des puits de Doumaï, avec 4 Aes Sedai mortes et plus de 20 tombés entre les mains de la Taveren, une autre sorte de captivité? Aucune importance. Elaïda était originaire de l'Aja Rouge, et il y avait bien trop longtemps que l'étole n'avait plus reposé sur les épaules d'une sœur de cette obédience. Toutes les actions précipitées et les décisions hâtives ne comptaient plus depuis l'arrivée des renégates et de leur armée. Et la dernière initiative d'Elaïda compensait tous ses errements. Bien entendu, Pevara ne présenta pas les choses ainsi.
C'est elle qui a lancé la traque, Yukiri. Elle mérite d'assister à son terme. Tout ce que nous avons découvert jusque-là, c'est par hasard. Et nous n'avançons plus du tout. Pour que ça reparte, nous aurons besoin de l'autorité de la chair d'Amirline.
Je ne sais pas trop,
fit Yukiri, troublée.
Nos 4 prisonnières disent toutes que l'Aja Noire sait tout ce qui se passe dans son bureau.
Elle se mordilla la lèvre et haussa les épaules, mal à l'aise.
Si nous pouvions la rencontrer en privé, dans un autre endroit...
« Enfin, je vous trouve !»
lança une voix.
« Je vous ai cherché partout !»
Pevara se retourna, très calme, mais Yukiri sursauta et lâcha une imprécation entre ses dents. Si elle continuait comme ça, elle deviendrait aussi mal embouchée que Doessin ou Tsutama. Seheine se hâta de rejoindre ses collègues, les franges de son châle voltant derrière elle. Croisant le regard noir de Yukiri, elle enfonça les sourcils de surprise. Une sœur blanche tout crachée, logique en toutes circonstances et souvent aveugle au monde qui l'entourait. La moitié du temps, elle semblait ignorer que les chasseuses étaient en grand danger.
« Tu nous cherchais ?»
marmonna Yukiri, les poings plaqués sur les hanches. Malgré sa petite taille, elle donnait souvent l'impression de regarder les gens de haut. Là, c'était sans doute dû en grande partie à la surprise. Convaincue que Seheine devait être surveillée de près pour sa propre sécurité, quoique Saïrine ait décidé, elle s'étonnait de la voir déambuler toute seule.
« Je vous cherchais, ainsi que Saïrine et toutes les autres, »
répondit Seheine, impassible. L'angoisse qui la taraudait jusque-là, la Jeanne Noire découvrant la mission que lui avait assignée Elaïda, semblait avoir disparu. Si on acceptait son regard bleu encore un peu chaleureux, elle était redevenue le prototype d'une sœur blanche, froideur, sérénité et assurance.
« J'ai des nouvelles urgentes, »
dit-elle sur le ton de la conversation de salon.
« Voici la moins importante. Ce matin, j'ai vu une lettre d'Ayako Norsoni arriver il y a quelques jours de ça. Avec Tovein et toutes les autres, elle a été capturée par les Ashaman et... »
Perplexe, Seheine étudia ses deux collègues.
« Vous ne semblez pas du tout surprise ?»« Bien, j'ai compris. Vous avez aussi reçu des lettres. De toute façon, on ne peut rien faire pour le moment. »
Pevara consulta Yukiri du regard, puis elle lâcha.
« C'est ça ta nouvelle la moins importante, Seheine ?»
La représentante blanche perdit un peu de sa superbe. Les lèvres serrées, elle plissa les yeux et saisit à deux mains les franges de son châle.
« De notre point de vue, oui. Je reviens du bureau d'Elaïda. Elle m'a interrogé sur les progrès de mon enquête. »
Seheine prit une profonde inspiration avant de continuer.
« Tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir si Alviarine a entretenu une correspondance secrète avec le dragon réincarné. À l'époque, elle me présentait les choses d'une manière si tordue que j'ai cru, en toute bonne foi, que la Jeanne Noire était ma principale cible. « Je crois qu'un renard marche sur ma tombe, »
murmura Yukiri. Pevara acquiesça. Désormais, l'idée de rencontrer Elaïda n'avait plus aucun sens. Avec sa méprise, Seheine les avait mises dans une situation intenable, car la seule preuve qu'Elaïda n'appartenait pas à la Jeanne Noire venait de disparaître en fumée. Au moins, les sœurs noires ne connaissaient toujours pas leur existence. Cet avantage, elle l'avait encore. Mais pour combien de temps ?
Sur la mienne aussi,
soupira Pevara.
Oui, sur la mienne aussi.